Mémoire d'un cambrioleur retiré des affaires, d'Arnoul Galopin. Deuxième partie, chapitre premier, où je quitte le monde pour me retirer à Reading. Je juge inutile de rappeler ici les diverses péripéties de mon procès. Il a fait d'ailleurs assez de bruit. Je fus condamné pour cambriolage à main armée, bien que le solliciteur désigné d'office pour me défendre eût essayé de prouver que l'arme dont je m'étais servi n'était qu'un vulgaire étui de pipe, mais la déposition de Miss Mellis fut accablante. Cette respectable personne soutint avec un acharnement féroce qu'elle avait parfaitement vu le canon d'un revolver de gros calibre braqué sur elle, et le tribunal l'a cru. Malgré l'éloquence un peu théâtrale de mon solliciteur, je me vis donc octroyer 5 ans de hard labor. Par bonheur, pour moi, il n'avait pas été question de l'affaire Robinson. À la fin de l'audience, on me conduisit au Justice Box, et le lendemain, après une foule de formalités odieuses et ridicules, j'étais transféré à la geôle de Reading. Nombre de touristes français connaissent Reading, cette charmante localité des environs de Londres, située entre Maidenhead et Basingstoke, dans un site agréable, presque au bord de la Tamise. C'est là que l'été, les clerks et les shopkeepers de Londres vont se remettre des fatigues de la semaine avec leurs petits amis ou leurs épouses. Au temps de ma prime jeunesse, j'étais souvent venu à Reading avec mes parents, mais à cette époque, le paysage n'était pas encore gâté par la silhouette imposante et hostile d'un pénitencier. La campagne s'étendait verdoyante, coupée çà et là de larges allées de sable que bordaient de riants cottages. Il paraît que c'est Lord Strange, un philosophe philanthrope de la nouvelle école, qui a eu l'idée de faire édifier une prison à Reading, parce que l'air y est très pur et que l'on doit prendre soin de la santé des criminels. Cette fausse humanité n'est-elle pas révoltante? Quelle influence peut avoir sur la santé des détenus un air salubre qui ne respire jamais puisqu'ils sont continuellement confinés dans une cellule où le jour ne pénètre que par un étroit vasistas, ouvrant la plupart du temps sur les cuisines, la buanderie ou l'usine servant à produire la lumière électrique? Toutefois, il est juste de reconnaître que les cellules de ce home forcé sont des mieux aménagées. Outre l'éclairage électrique, elles comportent une table, une chaise en bambou et une crédence ou voisine avec des commentaires de la Bible, quelques livres de voyage et d'histoire. Le lit très simple, monté sur un sommier métallique, à cet aspect d'élégance sobre que donne l'extrême propreté et le luisant du cuivre soigneusement entretenu. C'est en réalité un asile confortable et je comprends très bien maintenant que le pauvre diable préfère cette hospitalité à l'abri précaire des garnis borgnes ou des logis de rencontre. Cependant, ce luxe pénitentiaire a quelque chose d'ironique. Il semble dire aux malheureux qui viennent échouer dans la geôle de Reading « Voyez comme on est bien ici !» Mais une trappe aux ferrures énormes qui se dessine sur le parquet ne tarde pas à refroidir l'enthousiasme des détenus et à leur rappeler les anciens supplices imaginés par les bourreaux de la Tour de Londres. Cette trappe, par les rainures de laquelle monte une affreuse odeur de catacombes, c'est la trappe du treadmill, et l'on verra bientôt ce que signifient ces deux mots qui évoquent à l'esprit du profane la reposante vision d'un spectacle champêtre. Dès que j'arrivais à Reading, un gardien galonné, qui semblait m'attendre, me conduisit au Record Office, où je trouvais un gentleman imposant, lequel consigna sur un grand registre à coin de cuivre mes noms, prénoms et qualités. Il écrivait lentement, les lèvres et l'œil gauche plissés avec effort, comme s'il eût été pris soudain d'une violente colique. « Pipe, Edgar Pipe !» répéta-t-il plusieurs fois. Le gardien galonné lui remit alors l'argent que l'on avait trouvé sur moi et que la loi anglaise voulait bien considérer comme ma propriété. J'en allais payer les intérêts à un taux assez élevé et il me semblait juste qu'on le portât à mon actif. « On vous rendra cette somme à votre sortie, » me dit le comptable. Mais le règlement vous autorise à prélever sur ce dépôt 2 shillings par semaine, sur lesquels on vous retiendra 6 pence pour l'entretien de la chapelle. Mon geôlier m'emmena ensuite dans un petit vestibule aux murs blanchis à la chaux, et là me pria poliment de lui remettre mes bottines et mes bretelles. Je lui tendis mes bretelles sans hésiter, mais quand il s'agit de lui donner mes bottines... J'eus un petit tremblement dont on devine la cause. Je m'exécutai cependant. « Voici, dis-je, d'une voix émue en lui présentant mes chaussures, ces chaussures précieuses dont l'une contenait des millions. Et à cette minute, je sentis mes yeux se mouiller. Ainsi, c'était fait de mon avenir. » Le beau rêve que j'avais caressé s'envolait pour toujours. Le gardien prit les bottines et avec de la craie inscrivit à la hâte sur les 2 semelles le chiffre 33. C'était mon matricule. Maintenant, Edgar Pipe n'existait plus. Il serait pendant 5 ans rayé du nombre des humains. Il n'était plus qu'un numéro. On vous les rendra quand vous sortirez. « Vraiment ? » fis-je incrédule. « Mais bien sûr, les effets des détenus demeurent leur propriété. Bien plus, comme ces bottines sont usées, on vous les recélébrera dans les ateliers, à vos frais, bien entendu. » Je ressentis un choc au cœur, et l'espoir que j'avais eu à un moment fit place à un accablement profond. J'essayais néanmoins de soutenir que mes bottines étaient encore en très bon état et qu'il était inutile de les réparer. L'homme les examina, puis répondit avec un hochement de tête « L'administration jugera, moi ça ne me regarde pas. » Et jetant les chaussures dans un coin, il ouvrit une petite porte et me poussa devant lui. Nous suivîmes un long couloir, montâmes un petit escalier en colimaçon, et arrivâmes devant une grille à travers les barreaux de laquelle on apercevait un petit homme chauve qui empilait sur un large comptoir des paquets numérotés. « Hé, père Bowsprit !» cria mon geôlier. « Un complet pour ce gentleman, s'il vous plaît !» Le petit homme chauve leva la tête, me toisa un instant, puis articula d'une voix aigre « Taille numéro 2, carrure moyenne. Ah, j'ai justement là quelque chose qui fera l'affaire. » Il ajouta en riant. « Ah, c'est presque neuf, car celui qui l'a porté l'a pas gardé longtemps. Certes, il eût sans doute préféré l'user, mais Monsieur John en a jugé autrement. Voici le complet, où je n'ai plus qu'à coudre le matricule. Si je me trompe, c'est le numéro 33. C'est bien cela, dit le gardien. Le petit homme, sans se presser, enfila une aiguille, chercha pendant un instant dans un tiroir, puis fixa au vêtement qui allait devenir le mien une étiquette de toile. Cela fait, il prit dans une armoire une calotte de drap qui ressemblait au polo des Horse Guards et passa le paquet à travers la grille. « Déshabillez-vous, » me dit le gardien. J'obéis et troquai l'élégant costume que je devais à la générosité de M. Robinson & Co. contre l'affreuse houppe lente des détenus, une sorte de combinaison de toile grise parsemée d'as de trèfle. J'étais maintenant métamorphosé en clown, et je suis sûr que j'eusse obtenu un joli succès en figurant sous cet accoutrement dans une pantomime de l'Olympia. Je fus ensuite conduit chez le hairdresser, qui me rasa le visage et la tête à la tondeuse, puis, après avoir assisté à un office que marmotta exprès pour moi l'aumônier de la prison, coût 1 shilling 6 pence, Je fus incarcerated dans la cellule 33 qui devait pendant 5 années abriter feu Edgar Pipe. Seul, j'étais seul. À partir du moment où j'avais franchi le seuil de ma geôle, je demeurais séparé du monde. Le seul être que j'apercevrais, et encore à travers un Judas, serait un gardien indifférent et maussade. Je devais souffrir en silence, ronger mon frein dans l'isolement le plus complet, oublier jusqu'à la voix humaine. Les printemps succéderaient aux hivers, les automnes aux étés, et je serais toujours là, entre ces 4 murs, pendant qu'au dehors, sur les jolies pelouses de Reading, les bourgeois de Londres, ivres de soleil et le cœur en fête, célébreraient joyeusement les jours de repos avec leur famille ou leur maîtresse. Je me jetais sur mon lit et pleurais comme un enfant. En adoptant la dangereuse profession de cambrioleur, je savais certes à quoi je m'exposais. Je n'ignorais pas qu'un jour ou l'autre la société me contraindrait à une villégiature forcée dans quelque geôle du Royaume-Uni. Mais je ne m'étais jamais imaginé que la claustration fût une chose aussi pénible. D'abord, je fus en proie à une sorte d'anéantissement, de stupeur, puis une rage folle s'empara de moi, et je me demandais un moment si je n'allais pas me briser la tête contre la muraille. À la nuit tombante, je retrouvai cependant un peu de calme et fis honneur au maigre repas qu'on me passa par un guichet. Je me déshabillai dès que retentit la cloche du coucher et me glissai sous ma couverture, mais il me fut impossible de fermer l'œil. Quand 9 heures sonnèrent à l'horloge de Reading, Gaulle, qui possède, par parenthèse, un carillon des plus sonores, je me levai en proie à une impatience fébrile et me mis à arpenter, pieds nus, ma cellule. Je montai ensuite sur une chaise et cherchai à jeter un coup d'œil par la fenêtre. Au prix de difficultés inouïes, je parvins à me hisser jusqu'à l'entablement et y demeurai suspendu. Des ombres passaient et repassaient dans une grande cour à demi-obscure. C'étaient probablement des gardiens qui allaient prendre leur service de nuit. De temps à autre, j'entendais de longs appels, un grand bruit de verrous, et par-dessus tout cela, le ronflement sourd et régulier de la machine à vapeur qui distribue l'électricité dans la maison. Enfin, vers 10 heures, les couloirs et les fenêtres des cellules furent moins lumineux, et un silence relatif remplaça le vacarme de tout à l'heure. Je me recouchai. 1000 idées plus confuses les unes que les autres se heurtaient dans mon cerveau, et parmi elles, il en est une qui m'obsédait, me revenait continuellement à l'esprit. Si je m'évadais, la chose ne me semblait pas impossible, en somme. Ma cellule était au rez-de-chaussée, et j'avais remarqué que les barreaux de la fenêtre étaient très espacés. L'un d'eux n'avait même pas l'air bien solide. Pendant quelques instants, j'élaborais tout un programme d'évasion que le raisonnement me fut bientôt repoussé. M'enfuir, mais est-ce que je le pouvais? Et mon diamant? Bien que je ne fusse pas certain de le retrouver à l'expiration de ma peine, rien ne m'autorisait non plus à supposer qu'on le découvrirait. Mes bottines n'avaient nullement besoin d'être ressemblées et il ne pouvait très bien qu'on les laissât telles qu'elles étaient. De plus, si les semelles étaient un peu usées, les talons n'étaient même pas tournés. Il faudrait vraiment que les cordonniers de la prison manquassent de travail pour entreprendre une réparation qui n'avait rien d'urgent. J'avais peut-être tort de m'alarmer ainsi. Et puis, le sommeil finit par me terrasser. Mais il fut hanté d'affreux cauchemars. Je voyais Edith au bras d'Alan Dixon. Tous deux me regardaient en riant et me prodiguaient les plus basses injures. Ensuite, C'était l'horrible visage de Manzana qui m'apparaissait. Le gredin avait en main une de mes bottines, et je le voyais, qui, avec un tournevis, s'apprêtait à enlever la petite rondelle de cuir qui cachait le diamant. Il clignait de l'œil d'un air narquois, et chantonnait une romance ridicule que j'avais entendue autrefois à Londres dans un music hall. Puis Edith revenait, appuyée cette fois sur l'épaule de Manzana. Elle avait mis le diamant dans ses cheveux et j'étais ébloui par les feux qu'il jetait. La figure de ma maîtresse était rayonnante et parfois, après un bruyant éclat de rire, elle attirait vers elle l'ignoble Manzana et le baisait sur les lèvres. Je dus à 7 minutes me lever d'un bond et pousser des cris épouvantables, car le guichet de ma geôle s'ouvrit avec un bruit sec et je vis l'œil sévère d'un gardien qui me regardait fixement. Je me laissai retomber sur mon lit et m'assoupis de nouveau, mais pour être aussitôt repris par une affreuse vision. Monsieur John Ellis, le bourreau de Londres, tressait délicatement une énorme corde de chanvre et me la montrait de temps à autre en faisant le geste de se la presser autour du cou. Le lendemain, quand sonna la cloche du réveil, j'étais brisé, moulu, anéanti. Je me levai cependant et endossai mon horrible livrée. Comme je l'avais mise à l'envers, je la retirai pour la retourner, et une petite étiquette que je n'avais pas remarquée la veille frappa mes regards. Sur cette étiquette, je lus un nom qui me fit frissonner, Calcraft. Le précédent propriétaire de ma houppelande avait lui-même écrit son nom sur l'étroite bande de toile, et ce nom était celui d'un dangereux malfaiteur pendu récemment à Reading. Les journaux avaient longuement parlé de cette exécution qui avait été très mouvementée, car Calcraft, qui tenait à la vie, s'était débattu avec fureur entre les mains du bourreau. Je comprenais maintenant pourquoi le petit homme chauve avait tenu à faire remarquer que ce vêtement avait été très peu porté. Et je me souvenais de la plaisanterie macabre qu'il avait lancée en faisant allusion à M. John. Ainsi, je portais la défroque d'un condamné à mort. On avouera que c'était joué de malheur et que je ne pouvais vraiment pas conserver cette tunique de Nessus qui me brûlait le corps. On a beau pas être superstitieux, il y a quand même des coïncidences fâcheuses bien faites pour jeter le trouble dans le cerveau le mieux équilibré. Je me mis à cogner à la porte de ma cellule, fis un vacarme de tous les diables et exigeai que l'on me donnât un autre vêtement. On finit par y consentir, mais cela prit plus de 2 heures. Il fallut qu'on en référât au gardien-chef, que celui-ci alla trouver le surveillant général, lequel exposa l'affaire au directeur, et enfin, après une longue suite de pourparlers, on m'apporta un « complet neuf », entre guillemets. Le scandale que j'avais provoqué dans la prison me fit considérer comme un détenu « rebellious », et je fus, à partir de ce moment, regardé d'un mauvais œil par mes gardiens. Hélas, tout cela était de peu d'importance en comparaison de ce qui allait m'arriver. Pendant 8 jours, je mangeais, comme on dit, mon pain blanc. L'heure du supplice allait bientôt sonner. Chapitre 2. Le supplice de la roue. J'ai parlé plus haut de cette trappe mystérieuse qui s'ouvre dans les cellules des prisons anglaises. Les planches dont elle est formée sont au nombre de 4, solides, rugueuses, et offrent un contraste frappant avec les lamelles de parquet qui l'entourent. Ceux qui la voient pour la première fois la regardent avec effroi, même s'ils ignorent à quoi elle sert. Quand on l'a vue s'ouvrir, hélas, on y songe toute la vie. Cette trappe est celle du treadmill, Cet instrument de torture digne du Moyen Âge et que la barbarie des lois anglaises a conservé dans son arsenal judiciaire. J'avais souvent entendu parler du treadmill, mais ne faisant pas ma société habituelle des malfaiteurs, je n'avais pu recueillir aucun renseignement sur cette terrible punition. Je m'imaginais qu'elle devait manquer d'agrément, mais j'étais loin de supposer qu'elle pût être aussi cruelle. Et j'allais bientôt, moi, Edgar Pipe, le gentleman élégant, à qui tout travail manuel répugnait, faire connaissance avec le fameux moulin de discipline. J'allais savoir ce que c'est que la torture physique, après avoir enduré, sans faiblir, toutes les tortures morales. S'il est vrai que l'on doive tout pardonner à ceux qui ont beaucoup souffert, je pense que le lecteur, dès qu'il aura lu le récit de mon douloureux séjour à Reading, aura pour moi quelque pitié. Jusqu'alors, il n'a connu qu'un Edgar Pipe, assez insouciant, parfois même un peu cynique, se riant de tout et plein d'une folle confiance en soi. Bientôt, il verra un Edgar Pipe déprimé, affaibli, désespéré, terrassé. Un Edgar Pipe qui ne sera plus que l'ombre de lui-même, une sorte de brute aux yeux caves, aux gestes endoloris, un spectre ambulant, insensible à tout, un déchet d'humanité, une épave. Et je suis sûr que les gens de cœur seront, malgré eux, amenés à se dire « Mais un simple cambrioleur méritait-il pareil châtiment ?» C'est généralement à l'heure où l'homme qui a souffert recommence à espérer que la lourde main de la destinée s'abat de nouveau sur lui. Depuis 8 jours que j'étais à Reading, je commençais à prendre mon mal en patience et à m'accoutumer au régime cellulaire, si dur pour ceux qui, comme moi, aiment la société bruyante, quand un matin, à 8h20 exactement, la cloche de la prison résonna comme un glas. À ce tintement lugubre, j'avais tressailli malgré moi, comme à l'approche d'un malheur. Bientôt, des pas lourds retentirent dans les couloirs, une sonnette s'agita, et une affreuse voix enrouée que j'entends encore se mit à répéter sur un ton monotone « Treadmill, treadmill, lock out there !» Aussitôt, la porte de ma cellule s'ouvrit avec fracas. Je fus poussé vers la trappe par des mains brutales et je me trouvai assis sur une sellette de fer pendant que mes pieds reposaient sur une large lame de bois à demi inclinée. Instinctivement, je jetai un coup d'œil dans le trou noir qui béait au-dessous de moi et je distinguai une énorme solive munie de palettes qui ressemblait absolument à la roue d'un moulin à eau. « Gare à vous !» me dit un gardien. « C'est la première fois que vous faites du treadmill. Pédalez, pédalez ferme, surtout manquez pas les aubes. Si vous vous arrêtez une seconde, allez, vous vous faites accrocher les jambes. »« Take care !» hurla quelqu'un. « Forwards !» La roue commença à tourner doucement. Elle était dure à mettre en marche, et bien que des centaines de pieds appuyassent à la fois sur les palettes fixées dans l'arbre de couche, le démarrage ne faisait que difficilement. Peu à peu, le mouvement s'accentua, devint plus rapide, et l'on entendit un ronflement sonore pareil à celui d'un volant de machine. Je sentais sous mes pieds tourner les aubes, et dès que l'une avait passé, je rattrapais vivement l'autre, tremblant à chaque seconde de la manquer et de me faire broyer les jambes. Je ne sais si je me fais bien comprendre, car en écrivant ces lignes, je suis encore si troublé que ma plume tremble dans ma main et que ma tête s'égare. Ceux qui n'ont pas vu fonctionner un treadmill ne peuvent se rendre compte du danger qu'à chaque seconde court le malheureux détenu astreint à ce travail d'écureuil. Je suais sang et eau, et je m'attendais toujours à manquer pied, mais à la longue, j'acquis plus d'habileté. J'avais à peu près attrapé ce que les prisonniers appellent la cadence, et je menais régulièrement le train. J'étais cependant à la merci d'une défaillance. Qu'un malaise me prit, qu'une faiblesse ou une crampe immobilisa mes muscles, et c'était la catastrophe. Mes oreilles tintaient, j'entendais un grand bruit de cloches et des papillons de feu dansaient devant mes yeux. Les veines de mon cou étaient gonflées à éclater, et il me semblait que je ne pourrais plus tenir longtemps. Néanmoins, je pédalais toujours, machinalement pour ainsi dire, et je me demandais avec angoisse quand ce supplice allait prendre fin. Pour qu'il cessât immédiatement, j'eusse donné mon diamant, enfin, que dis-je, 20 ans de ma vie. Soudain, dans une des cellules, retentit un cri sinistre, un de ces cris qui glacent d'effroi ceux qui les entendent, puis ce fut le silence. Le treadmill s'arrêta. Il eut un instant un bruit de pas précipité, de sourds gémissements, puis le calme se rétablit et le surveillant-chef lança de nouveau son lugubre avertissement. « Take care, forwards !» Et la roue se remit à tourner. J'apprenais quelques instants après, par une conversation entre gardiens, qu'un vieux détenu, un vétéran de la geôle, s'était fait couper les jambes par le treadmill. Le lendemain, on l'enterrait quelque part et tout était dit. Est-ce qu'on a le temps, Reading, de s'apitoyer sur ceux qui s'évadent par la mort de la prison modèle de Lord Strange? Chaque jour, nous devions tourner la roue pendant 20 minutes le matin et une demi-heure l'après-midi. Le lecteur a pu se rendre compte, par la courte description que j'ai faite du moulin de discipline, de l'effet que ce supplice quotidien doit avoir sur l'organisme déjà affaibli des détenus. Les solides, les robustes résistent, et les faibles succombent. « Un de moins, dit la justice. « Une victime de plus, répond l'humanité. » La justice anglaise est certes une belle institution. Je dirais même que notre code, qui n'est point tout à fait « up to date », protège assez le criminel et s'efforce d'éviter les condamnations injustes. On peut aussi affirmer qu'en Angleterre, lorsqu'un homme est condamné, il l'est presque toujours justement. Mais ce qu'il y a d'horrible dans nos institutions, c'est la répression. Les juges condamnent un homme au hard labor pour vol et à la pendaison pour crime. Or, cette dernière peine est la plupart du temps moins cruelle que la première. Et il vaut souvent mieux être pendu que de tourner la roue pendant 5 ans. À l'heure où j'écris ces lignes dans ma villa d'été de Ramsgate, face à la mer, devant un joli bureau d'acajou, je me demande si c'est bien moi, Edgar Pipe, qui suis encore là, et si je ne suis pas la réincarnation du malheureux détenu qui pédalait à Reading, matin et soir, en compagnie de 200 autres camarades sous l'œil placide du surveillant Ruggles. Oh, Sir Ruggles ! Je le revois encore et je ne puis songer à lui sans un mouvement de colère. C'était un être impitoyable qui n'avait jamais su s'émouvoir de sa vie. Il me rappelle ces froids inquisiteurs qui regardaient torturer les gens avec une impassibilité de statue. Nous l'avions surnommé Jack Ketch, et nous le haïssions tous de ce qui nous restait de cœur et d'âme. J'avais eu un jour affaire à lui. Je me sentais malade et craignais de m'évanouir en tournant la roue. Eh bien, le misérable me força à me lever, et comme je lui faisais remarquer que je n'aurais certainement pas la force de faire marcher mes jambes, il répondit avec un affreux ricanement « Mais tant pis, alors vous serez broyés. Oh, des individus de votre espèce, il y en a trop ici. » Je ne sais à quelle espèce appartenaient mes co-détenus, mais je ne crois pas me vanter en souvenant que je valais mieux que la plupart d'entre eux, qui étaient tous des chevaux de retour, et appartenaient à cette basse pègre que le londonien désigne avec mépris sous le nom de Black Rascals. Ce jour-là, je faillis bien me faire broyer les tibias, mais la Providence veillait sans doute sur moi. car j'eus la force d'accomplir jusqu'au bout ma pénible tâche. Oh, je ne cherche pas à me faire plaindre, loin de là, et que le lecteur ne s'imagine point que je dose à dessein mes effets dans le but de l'émouvoir sur ma triste personne. Mais puisque j'écris mes mémoires, j'estime que je dois tout dire. Avouez qu'il ne serait pas juste tout de même que je me donnasse continuellement le vilain rôle. Il faut bien que de temps à autre je parle de mes souffrances. C'est même nécessaire, je dirais plus très moral, car en me lisant, les jeunes gens qui auraient l'intention de mal faire seront certainement retenus sur la pente fatale par la crainte de terribles répressions. Au bout d'un an de treadmill, je n'étais plus que l'ombre de moi-même. J'étais devenu un véritable squelette, et le médecin de la prison jugea prudent de m'envoyer à l'infirmerie. Quelle ne fut pas ma surprise en retrouvant là le jeune homme au complet neuf et aux bottines vernies, dont j'avais fait une nuit la connaissance sous un des comptoirs de la maison Robinson & Co. « Et quoi ?» lui dis-je, « vous êtes ici ? Vous le voyez ? Pour longtemps ? 2 ans. Seulement ? Ah, vous trouvez que c'est pas suffisant ? 2 ans de hard labor pour une paire de boucles d'oreilles ? Je trouve au contraire que c'est bien payé. » Et le jeune homme, profitant de ce que le gardien qui nous surveillait s'était approché de la fenêtre, me confia brièvement son aventure. « Certes, dit-il à voix basse, depuis que je travaille, j'ai bien mérité 20 ans de treadmill, mais on m'a jamais inquiété pour les autres affaires. Il a fallu que je me fasse prendre bêtement chez un bijoutier de Russell Street, un vieux juif rusé comme un renard. Je dois vous dire que j'ai une petite amie, une ravissante gale, qui a nom Maisie. Je l'aime à la folie, ce qui est assez naturel. » Elle lui fait de temps à autre quelques petits cadeaux, sans bourse dédiée, bien entendu. Mais vous, qui êtes de la partie, vous savez que moi, que ces cadeaux-là coûtent souvent fort cher. Et la preuve, c'est que je suis ici pour 2 ans. Bref, j'étais entré chez ce juif qui s'appelle Manassé, dans l'intention de choisir un cadeau pour Maisie, dont c'était la fête le lendemain. Après m'être fait montrer des bracelets, des bagues, des pendentifs, j'arrêtai mon choix sur une superbe paire de boucles d'oreilles, et profitant d'un moment où le marchand avait le dos tourné, je la mis vivement dans ma poche. Par malheur, le vieux Grigou avait aperçu mon geste dans une glace. Il ne dit rien, mais m'enferma dans sa boutique et alla chercher un policeman. « Vous n'avez pas eu l'idée de vous débarrasser de boucles d'oreilles ?»« Non, car cela était si vite fait que je n'y ai vu que du feu. »« D'ailleurs, je croyais toujours le père Manassé derrière moi, dans une petite pièce attenant à la boutique. »« J'ai donc été pris en flagrant délit, jugé, condamné, et voilà. »« Le châtiment est dur en vérité. »« Oui, mais jusqu'à présent, je suis parvenu à couper au treadmill. » « Ah, et comment cela ?»« En entretenant une plaie que j'ai à la jambe. »« Et vous restez couché toute la journée ?»« Non. Dans l'après-midi, on m'emploie à la cordonnerie. »« Ah. Et vous ressemelez les chaussures ?»« Non, je mets des pièces invisibles. » C'est ma spécialité. Je travaille même pour les surveillants. De sorte que vous tirerez vos 2 années de hard labor sans avoir tâté du moulin. Je l'espère, mais je crains bien qu'on ne me fasse redoubler. Ah, oui, il en est déjà question. Il y eut un long silence. Le gardien s'était rapproché. Nous prîmes tous deux des poses à l'anguille, et quand il se fut éloigné de nouveau, je dis à mon camarade « Il est presque certain que l'on vous fera faire ce qu'ils appellent du rabiot. Le mieux, voyez-vous, serait de vous évader. » Ben, vous en parlez à votre aise, vous, si vous croyez que c'est facile. Et si je vous en donnais les moyens, vous? Oui, moi. Oh, je vous bénirai jusqu'à la fin de mes jours, mais c'est sérieux ce que vous dites? Mais tout ce qu'il y a de plus sérieux? Oh, expliquez-moi cela. Non, plus tard. Pour le moment, il faut que vous me rendiez un service. Oh, si je le puis, je ne demande pas mieux. De quoi s'agit-il? J'hésitais un moment, puis me rapprochant du lit de mon compagnon. Allez-vous tous les jours à la cordonnerie? Oui, dans l'après-midi. Bien. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. J'écoute. Pourriez-vous retrouver une paire de bottines qui porte sous chaque semelle le numéro 33 et me les apporter ici? Oh, ce que vous me demandez là est bien difficile. Enfin, j'essaierai. Vous tenez beaucoup à rentrer en possession de ces chaussures? Oui, car c'est grâce à elles que nous pourrons nous évader. Pas possible. Je vous l'affirme. Oh, je vous promets d'essayer. Mais deux bottines, c'est difficile à dissimuler. Peut-être pourrais-je en apporter une d'abord. Oui, bien dans ce cas, apportez le pied droit. Entendu. Chapitre 3. Horrible vision. Je regrettais quelques instants après ce que je venais de dire, mais tant pis, le sort n'était jeté. D'ailleurs, qu'avais-je à craindre? De deux choses l'une. Ou mon codétenu parviendrait à s'emparer de mes bottines, ou cela lui serait impossible. Il n'aurait certainement pas l'idée de regarder dans le talon droit. Il n'y avait qu'une chose à craindre, c'était qu'il ne se fît pincer. Mais il saurait probablement déjouer la surveillance des gardiens. Une fois en possession de ma précieuse chaussure, je retirerai du talon le diamant qui s'y trouvait caché et le dissimulerai habilement dans quelque coin de ma cellule. Quant au projet d'évasion, j'y songerai ensuite, mais rien n'était moins sûr que sa réussite. Ma foi, tant pis, le principal était pour l'instant de rentrer en possession de mon diamant. Ah, avec quelle joie je le palperai de nouveau! Avec quel bonheur je le regarderai la nuit dans ma cellule à la lueur de la petite ampoule placée près de mon lit. Cette fois, j'en étais sûr, personne ne viendrait me le prendre, car je lui trouverai une petite cachette bien close, une petite niche invisible. Il me semblait que je supporterais tout sans me plaindre, que je pédalerais même avec une joie féroce si je pouvais retrouver mon régent. Ce serait certes la première fois que l'on verrait un détenu millionnaire faire tourner la roue de Reading. Oui, mais voilà. Si toute évasion était impossible, aurais-je la force de supporter 4 ans encore les tortures du Hard Labor? Chaque jour, j'encourageais mon co-détenu, qui s'appelait Crafty, en faisant allusion à notre fuite prochaine. Je lui tenais, comme on dit, la dragée devant les lèvres, et il était prêt à tout tenter pour s'emparer de mes chaussures. Malheureusement, le temps passait. Je voyais arriver le moment où on me reverrait en cellule, et les recherches de Crafty n'avaient encore donné aucun résultat. Enfin, l'avant-veille du jour où l'infirmier-chef allait signer mon exéate, Crafty me dit le soir à son retour des ateliers « Je sais enfin où sont vos bottines, mais il m'est impossible de m'en emparer, car on les a enfermées à clé dans un casier à claire-voie. Force est la serrure, vous n'y pensez pas. D'ailleurs, c'est une serrure énorme, il faudrait un merlin pour en venir à bout. » Alors, fis-je d'un air désappointé, vous êtes encore ici pour 2 ans, et moi pour 4. Vous ne tenez donc pas à revoir votre Maisie? Si, j'y tiens. Oh, pouvez-vous me demander cela? Mais j'en meurs d'envie, j'en deviens fou. Alors, de l'audace et de la ruse. Ah, si je pouvais m'introduire dans les ateliers, je vous assure que j'arriverais bien à forcer cette maudite serrure. Oh non, vous n'y arriveriez pas, je vous l'affirme. Alors, j'essaierai d'un autre moyen. Je voudrais bien vous y voir. Où se trouvent les ateliers de cordonnerie? Comment, vous ne savez pas? Ils sont juste au-dessous de nous. La conversation en resta là. 2 jours après, j'étais de nouveau en cellule et j'avais une fois encore perdu confiance. Crafty, malgré toute l'audace qu'il avait pu déployer, n'avait abouti à rien. Avant que nous nous quittions, il m'avait serré la main d'un air désolé, puis m'avait dit: J'ai fait tout ce que j'ai pu. J'essaierai encore, mais si je m'emparais des bottines, que devrais-je en faire? Je n'avais pas eu le temps de répondre à cette question, car déjà un gardien m'entraînait. Rentré dans mon box, je fis plutôt de tristes réflexions. Quelle imprudence j'avais commise en chargeant Crafty d'une mission qui ne pouvait véritablement point mener à bien. Maintenant, il était capable de commettre quelques gaffes, de vouloir quand même s'emparer des bottines, dans l'espoir d'y trouver quelqu'un de ces menus outils qui servent aux détenus à scier les barreaux de leurs cellules. Et puis je ne le connaissais pas plus que cela, ce Crafty. N'était-ce pas un de ces individus que les gardiens placent auprès des autres détenus dans le but de provoquer leur confidence? S'il allait parler. Cette histoire de bottines me paraîtrait assez bizarre. On rechercherait les chaussures numéro 33 et on en examinerait semelles et talons afin de s'assurer qu'elles ne recelaient rien de suspect. Cette minutieuse inspection amènerait certainement les gardiens à découvrir le diamant, et non seulement je me trouverais privé d'une fortune sur laquelle je comptais pour m'établir honnête homme, mais je serais sous le coup de nouvelles poursuites, et il était possible que cette autre affaire me valût encore quelques années de prison. Il est vrai que ces années-là seraient plus douces, puisque je les passerais en France, où les prisons, au dire des criminalistes anglais, sont plutôt des sanatoria que des geôles de punition. Ces réflexions que je ressassais chaque jour eurent pour résultat de me décourager tout à fait. Je tombais dans le marasme et il m'arrivait souvent de ne plus pouvoir marcher. J'avais les jambes comme paralysées, elles ne retrouvaient leur vigueur que lorsque j'étais obligé de les appuyer sur les aubes du treadmill. Bientôt, je n'eus même plus la force de penser. Je devenais stupide et demeurais plusieurs heures à la même place, sans faire un mouvement, les yeux fixés sur une fissure du plafond ou une lame du parquet. Je m'étais amusé, au début de mon incarcération, à marquer sur la muraille, avec la pointe d'une épingle, les jours que j'aurais à passer dans la geôle de Reading. Cela faisait 1825 jours, mais j'avais fini par m'embrouiller au milieu de cette multitude de signes gravés sur la pierre, et j'avais abandonné le petit travail qui consistait chaque soir à biffer un chiffre. C'était maintenant l'indifférence la plus complète de ma part. Je vivais comme un animal, comme une brute. Je n'avais même plus la notion du temps. Les heures sonnaient, mais je ne les entendais pas. Je me demandais parfois, quand une lueur de lucidité traversait ma pauvre cervelle, si je vivais encore, si tout ce que je voyais autour de moi était bien réel, et si, parti pour un autre monde, je ne poursuivais pas un mauvais rêve commencé sur la terre. Cet état d'hébétude, cette asthénie persistante, avait cependant une heureuse influence sur mon état général, car elle me maintenait dans une sorte de somnolence qui apaisait mes nerfs. J'ai reconnu d'ailleurs que, si j'étais resté à Reading, l'homme que j'étais lorsque j'y entrais, je n'aurais pu supporter plus de 2 mois la vie terrible qui m'était faite. L'individu s'habitue à tout. Prenez un élégant de Londres, emmenez-le dans le bouge le plus sordide et dites-lui, tu vivras ici pendant 2 ans. Il vous répondra immédiatement, vivre ici 2 ans, jamais, j'aimerais mieux me tuer. Supposez qu'on le laisse croupir dans ce bouge, il ne se tuera pas, et il s'accoutumera même peu à peu à cette ambiance de pourriture et de misère. S'il en était autrement, les hôtes de la geôle de Reading pourraient-ils résister 5 ans et même 10 ans à leur terrible claustration ? Je recevais parfois, comme les autres détenus, la visite de l'aumônier, le révérend McLaughlin, mais tout ce qu'il me disait, au lieu de me réconforter, me plongeait dans une tristesse profonde. Sa voix monotone, ses gestes pleins d'onction, ses révérences, sa façon même de lever l'index vers le plafond en prononçant le nom du Très-Haut, finissaient par m'horripiler et j'attendais avec impatience le moment où il regagnerait la porte. On voit à quel point d'affaiblissement j'étais arrivé. J'eusse préféré quelques rôles de saucisson et un verre de stout à tous les conseils spirituels du brave homme. Il remarqua sans doute le peu d'attention que je prêtais à ses discours, car il ne revint plus, et je m'aperçus qu'à partir du jour où il cessa ses visites, les gardiens se montrèrent immédiatement plus sévères et plus injustes. Sans doute leur avait-il confié que j'étais un individu de la plus basse espèce, un de ces criminels endurcis que la religion elle-même est impuissante à relever. Je fus dès lors classé dans la catégorie des « sauvages » et traité comme un vulgaire botocudo. Un jour, je m'en souviens, le directeur de la prison vint me voir dans ma cellule. C'était un gentleman en jaquette noire et gilet blanc, très haut sur jambes et affligé d'un tic ridicule de la face. « Numéro 33 », me dit-il en clignant de l'œil et en ramenant sa bouche vers son oreille. « Vous êtes, paraît-il, un incorrigible ?» Son œil reprit sa place normale, mais sa bouche fut agitée d'un petit mouvement de gauche à droite qui me fit pouffer de rire. Il me regarda sévèrement, cligna de l'œil encore une fois, et s'en alla furieux en disant « Numéro 33, vous êtes un cynique personnage et vous finirez mal, je vous le prédis. » « Goodbye !» lui criai-je en continuant de rire aux éclats. Je ne devais certainement pas jouir de toute ma raison, car autrement j'eusse reçu avec plus de courtoisie ce pauvre homme qui remplissait somme toute une pénible mission. Le soir, je me vis réduit au quart de portion, et cette privation de nourriture dura 8 jours. Le directeur s'était vengé. N'eût-il pas été plus sage de me faire examiner par un médecin ? Je devenais sale et n'avais même plus le courage de me débarbouiller, ce qui est un signe certain de déchéance physique. J'encourus 2 ou 3 punitions pour ma mauvaise tenue, et un jour, c'était en hiver, 2 gardiens m'entraînèrent dans la cour à demi nu et me frictionnèrent pendant 1 quart d'heure avec une brosse de chien-dent, ce qui amusa beaucoup les autres geôliers qui formaient le cercle autour de moi. Je contractai une fluxion de poitrine et fus pendant plusieurs jours entre la vie et la mort. J'aurais pu essayer de faire punir les 2 brutes, mais j'étais si heureux d'être exempt de treadmill que je ne dis rien. D'ailleurs, à quoi cela eût-il servi de porter plainte ? À Reading, les détenus ont toujours tort. Est-ce que les procédés dont on use envers les condamnés dans cette prison modèle ne sont pas tous empreints de la plus grande bienveillance et de la plus large humanité ? Ceux qui en douteraient n'auraient pour s'en convaincre qu'à consulter la grande affiche apposée dans le couloir du lavabo et qui est signée et approuvée par 3 des plus grands philanthropes d'Angleterre. Je ne connais pas ces 3 gentlemen, mais je ne serais pas étonné qu'ils eussent fait installer chez eux un treadmill à côté d'une pelouse de tennis pour développer leurs muscles ainsi que ceux de leurs enfants et de leurs épouses. Et même, je ne désespère pas de voir un jour ces grands philanthropes préconiser par région d'hygiène le treadmill à domicile. Ma fluctuation de poitrine me fut très salutaire, car elle me permit de me reposer un bon mois dans un lit beaucoup plus moelleux que celui de ma cellule. Je lus beaucoup pendant ce mois-là, et mon cerveau, qui était presque vide, recommença à se meubler un peu. L'aumônier, qui s'était décidé à revenir me voir, me trouva dans de meilleures dispositions d'esprit et attribua ce brusque changement à la lecture des livres saints. À dater de ce jour, il multiplia ses visites et fut tellement touché de mon attitude pieuse et recueillie qu'il me prit sous sa protection et promit de faire écrager ma peine. « Combien avez-vous encore de temps à faire ?» me demanda-t-il un jour. « Bon, je l'ignore, » répondis-je. « Est-ce possible ? Hélas, c'est la vérité. » Cette étonnante amnésie parut le troubler. « C'est bien, » dit-il, « je m'informerai. » Le lendemain, il m'apprenait que j'avais déjà tiré 400 jours et qu'il m'en restait encore 1425 à faire. Et il ajouta, « L'année prochaine, à l'occasion des fêtes du New Year's Day, Sa Majesté le Roi graciera quelques condamnés. Je tâcherai d'attirer sur vous sa très haute bienveillance. » Je remerciai, comme il convenait, le digne révérend, bien que n'eusse qu'une médiocre confiance en sa promesse. La guille me poursuivait, et je ne supposais pas qu'elle dût m'abandonner tant que je serais à Reading. Je crois à l'influence des milieux, et je suis persuadé qu'ils exercent sur notre individu une sorte d'envoûtement que peuvent seuls combattre les voyages et l'éloignement, car plus on reste dans un endroit où l'on n'a eu que du malheur, plus on attire autour de soi ce que j'appellerais les mauvais fluides. Je sortis de l'infirmerie un lundi matin, et quand je traversais l'étroite cour pavée qui conduisait au bâtiment où se trouvait ma cellule, je fus singulièrement impressionné par un spectacle auquel j'étais loin de m'attendre. Un détenu, encadré de deux hommes en noir, avançait d'un pas chancelant. Derrière lui venaient le pasteur, le directeur en redingote sombre, deux vice-surveillants et un individu à mine sinistre qui tenait à la main une petite valise verte. En m'apercevant, le détenu me fit un signe de tête et s'écria d'une voix vivante « Adieu, camarade, adieu, priez pour moi !» Je sentis un frisson m'envahir. « Où donc conduit-on cet homme ?» demandai-je au gardien qui m'accompagnait. « À la chambre de justice, » dit-il en se découvrant. Je me découvris aussi et demeurai cloué sur place, mon bonnet à la main. Au fond de la cour, une petite porte s'ouvrit en grinçant et une cloche se mit à tinter. M. John Ellis, le bourreau de Londres, venait de prendre livraison du condamné.